Les mardis littéraires, aujourd'hui, Onumanémone. Les mardis littéraires et aujourd'hui autour de la table Onumanémone qui vient de publier Quartier de Hon aux éditions Verticales, Dominique Poncé qui est écrivain et rédacteur en chef de la revue La Main de Singe, Claude Ril qui est traducteur et Alain Nicolas qui est journaliste, critique à l'Humanité et qui dirige les pages livres de l'Humanité.
Manipulation du lecteur, écho des sacs frappés, le narrateur. Le narrateur, son double. Les deux haut-parleurs sont des sacs de frappe qui contiennent les corps morts des deux personnes que j'ai tuées. J'étais bien jeune, il y a eu prescription, mais ils ne cessent pas pour autant de balloter. Chacun de ces crimes correspond à un inspecteur. L'un corpulent, massif et mûr, l'autre mince et plus jeune, chargé de la droite. Il est déjà venu dans un récit précédent, nous aider. Me couvrir, sans le savoir, au moment même où j'égrène la poudre noire de la crémation. Il y a croisement, dans la mesure où le sac de droite contient le mort, le plus âgé, presque totalement vide, et dont il ne reste à peine à disperser un fond de cendre, correspondant tout au plus au contenu de deux ou trois bols. J'hésite à le faire, sur place, et pourtant cela aigrit. Indéniablement gris, impossible à démêler, à trier, à répartir, le sol, le sac, l'intérieur et le contenu du sac. Les haut-parleurs sont bien des voix, des contenus de corps réduits en poudre. Comment voudriez-vous que Triboulet choisisse entre deux sacs ?
Onumanémone, on vient donc d'entendre un extrait du CD qui accompagne votre livre « Quartier de Hon », extrait du chant 1 qui s'appelle « Chaos des quais et des bordures » et ce premier extrait s'appelle « Écho des sacs frappés ». On va revenir à votre enregistrement et à votre, ce que vous appelez, une lecture dans une écoute optique. Vous venez donc de publier ce livre, je dirais, qui est au sens propre extraordinaire puisqu'il est hors des catégories ordinaires de l'édition. Par sa taille, puisqu'il fait 1140 pages, par sa forme, puisqu'il mêle des photographies et des dessins au texte, par sa construction en 11 chants, par sa langue, par le projet cohérent qu'il sous-tend et qu'on va essayer d'expliciter avec vous. On peut rappeler que vous aviez publié Ogre, O-R-G, en 99 aux éditions Tristram, et qui avait déjà beaucoup fait parler de lui. Et c'est une chose, je dirais, tellement gigantesque que c'est intimidant, ou que c'est en tout cas difficile d'y entrer. Je me proposais d'y entrer, par exemple, par votre nom de plume, Onumanémone, qui est une sorte de pseudonyme explicite. Quartier de Hon, c'est donc la première syllabe et la dernière syllabe de ce pseudonyme. Et puis quartier, on pense aussi à quartier de viande. Il y a beaucoup de viande dans votre livre, beaucoup de découpes, beaucoup de couteaux. Est-ce que ce sont des quartiers de viande ou des quartiers de ville? Voilà, le pseudonyme et le titre pour
oui.
Commencer.
Alors je dirais plutôt surnom que pseudonyme, si vous voulez, dans la mesure où le pseudonyme, ça a quelque chose plutôt de caché d'un masque, le surnom, ça aurait quelque chose de plutôt de la frappe juste au sens de la typographie. C'est-à-dire que, si vous voulez, le surnom, c'est un peu comme Perceval dans Chrétien de Troyes qui, tout d'un coup, au premier adversaire, découvre son nom alors qu'il ne le connaissait pas jusque-là. C'est le surnom qu'on donne dans les cours d'école aussi. C'est peut-être aussi le rapport entre la mue et la métamorphose. Si vous voulez, la mue, c'est quelque chose qui est subi. La métamorphose, c'est quelque chose qui est du côté d'une décision, un peu comme quand Zeus se transforme et se déguise par rapport à Europe ou par rapport à d'autres lieux mythologiques. Donc là, on est plutôt de ce côté-là. On est plutôt du côté de la métamorphose. Et en même temps, ça a été subi comme une mue, c'est-à-dire que ça a été travaillé à partir de l'intérieur du texte. Il y a eu plusieurs surnoms successifs jusqu'à arriver à celui-là. De la même façon qu'il y a plusieurs états
Mais on, de... c'est un impersonnel comme on
c'est aussi, c'est, un, c'est aussi, le pro... c'est aussi un pronom indéfini parce oui. que ça se rôle là comme ça. De on qui est également personne et qui est tout le monde et qui oui. est une collectivité au travail, si vous voulez. Et c'est les initiales de Unumanemon.
Hein.
Donc quartier de on, c'est quartier de la cosmologie Unumanemon. Ça se dit le lacon aussi, c'est-à-dire C-O-N, c'est-à-dire la cosmologie Unumanemon. Cosmologie plutôt que cosmogonie, parce qu'au début, il y a eu les deux interprétations possibles, mais la cosmogonie, disons, traditionnellement, est plutôt du côté des origines, par exemple... chez Hésiode et chez d'autres. Donc il ne s'agit pas de fondation du monde, il ne s'agit pas de généalogie, il ne s'agit pas d'origine, mais il s'agit de vraiment d'un fonctionnement logique en lui-même. Et quant au quartier, effectivement, c'est les mauvais quartiers, c'est les abats, c'est les cinquièmes quartiers, ça a ce côté tranché aussi. Et c'est aussi des quartiers à proprement parler dans des villes.
On dit aussi les mauvais quartiers, d'ailleurs.
Bien sûr, il y a les mauvais quartiers, comme il y a les abats, il y a les... Il y a le cinquième quartier. Si vous voulez, la cosmologie elle-même est divisée en 19 quartiers. Donc le livre là, c'est une traversée de ces quartiers. Hein. Ce n'est pas, il n'y a pas l'intégralité des 19 quartiers. Ça a été présenté en chant parce que le projet, c'était de cette totalité assez impossible, entre guillemets, c'est-à-dire de plus de 20 ou 22 000 pages, je ne sais plus exactement, en tout cas à peu près cette somme-là, si vous voulez, d'essayer d'en rendre compte, de le traverser d'une façon assez rapide, en prenant un fil conducteur. Il y en avait des milliers, là j'ai pris celui...
Donc vous voulez dire, dans vos 22 000 pages, vous avez choisi ces 1140.
Oui.
En laissant de côté, en triant, en suivant des lignes. Vous parlez d'étoilement, par exemple, à un moment donné. Vous avez suivi des lignes, au fond.
Oui, oui, oui. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'idée, au départ, c'était une réduction de tête absolue. C'est-à-dire, je me suis retrouvé, après un certain nombre d'années d'écriture, devant cette totalité presque impossible à publier en tant que telle. Donc, l'idée, c'était au moins le rêve. C'est celui qui a été réalisé aujourd'hui, là, grâce à Vertigal et grâce à Wallet, si vous voulez. C'est de rendre compte de ça, au moins, s'il n'y avait qu'un livre, si vous voulez, qu'au moins il y ait une traversée de l'ensemble de ces quartiers. Donc, j'ai choisi un fil qui était un fil logique, qui était celui de l'Oncle d'Amérique. Il aurait pu y en avoir plusieurs, hein, bien sûr. J'ai pris celui-là, une sorte de fil narratif, si vous voulez, au milieu de ces récits. Et quant aux quartiers eux-mêmes, pour vous répondre quand même assez rapidement par rapport à ce que vous disiez, les quartiers peuvent représenter vraiment un quartier à Bordeaux, notamment comme le quartier Saint-Michel, le quartier Sainte-Croix, et puis un endroit d'un quartier comme le quartier Mocaillou, qui est un endroit intermédiaire entre Saint-Michel et Sainte-Croix, par exemple, ou bien représenter un quartier qui est... le quartier va être tout un continent logique. Par exemple, il y a le quartier des campagnes. Donc on trouve la campagne du Gers, on trouve la campagne de la Gironde, de la Touraine, des choses comme ça. Et donc, chaque quartier est vraiment différent. Aucun n'est fait sur le modèle de l'autre, de la même façon qu'aucun récit n'est fait sur le modèle d'un autre récit.
Dominique Poncet.
Je voulais dire ma satisfaction de pouvoir lire, avec un auteur vivant en face de moi, contemporain, en chair et en os, même s'il signe de manière anonyme, qu'on a affaire à un grand livre. Pas seulement un gros livre, mais un grand livre. Et je pèse mes mots en disant ça. D'habitude, on parle à ce micro souvent de grands livres, de grands auteurs, mais qui ont disparu depuis longtemps. Et là, j'affirme, j'ai dans les mains, et j'ai lu ces dernières semaines, un grand livre. Un grand livre, d'abord par son ampleur, par son ampleur d'exploration du temps et de l'histoire, et aussi par son ampleur littéraire, stylistique, dans son ambition aussi. C'est un livre extrêmement ambitieux, qui ne promet pas des choses qu'il ne tient pas, mais qui effectivement pulvérise effectivement tous les records qu'il annonce. Donc on a un grand livre entre les mains, un livre infini. Moi, ça fait deux mois que je lis ce livre depuis qu'il est sorti. C'est un livre qui se lit lentement. Tout à l'heure, on évoquera le fait que c'est peut-être un gros livre, mais qui travaille essentiellement sur la forme courte, hein, le montage de forme courte. Je veux dire aussi que j'avais un petit peu peur d'avoir ce livre dans les mains, parce que ça fait à peu près 10 ans exactement, oui, en 94, que j'ai eu les 10 premières pages signées au Unumanemon à lire, par hasard. Il m'est arrivé dans les mains une petite revue d'école d'art, dans laquelle il y avait une dizaine de pages extrêmement énigmatiques et qui m'ont vraiment scotché. Et il n'y avait rien d'autre à lire, je ne trouvais rien d'autre. C'était signé un certain Unumanemon. Et donc, ça a entraîné le rêve d'un livre prodigieux. C'est-à-dire ces 10 pages-là m'ont fait rêver à un livre et il a fallu attendre 10 ans finalement pour le lire. J'avais un petit peu peur d'avoir dans les mains...
Donc c'était avant Ogre.
C'était bien avant Ogre, c'était en 94. Et donc, avec beaucoup de patience, j'ai attendu, j'ai rêvé pendant 10 ans à ce livre. Et ce livre, quand il m'est arrivé, j'avais un peu la trouille au ventre que je sois déçu finalement par rapport à ce que j'avais rêvé. C'est révélé encore plus grand que je l'imaginais parce qu'il a intégré... Le rêve prodigieux que j'avais fait d'un livre. C'est encore un livre encore plus grand que le rêve d'un livre prodigieux que j'avais fait. Alors ces qualificatifs-là ou ces superlatifs ne sont pas gratuits. Je lis beaucoup de livres et quand je dis ça, je ne parle pas à la légère. Et je le dis d'autant plus difficilement que l'auteur n'est pas un fantôme et qu'il est en face de moi et qu'il est un karatéka averti. Donc ce livre, 10 pages ont suffi à faire rêver un livre prodigieux qui s'est révélé plus grand que le rêve prodigieux de ce livre que j'avais fait et qu'il entraînait aussi de sa lecture de ces 1200 pages ou presque, d'autres rêves de livres et à peu contaminer toute la bibliothèque. Donc je veux dire, un grand livre et avec quelqu'un qui signe peut-être anonymement, qui n'est pas comme la plupart des auteurs accaparés par le fait de faire rapidement des livres pour se faire un nom, mais qui a tout simplement fait un livre et qui dans cet acte de désapparition sociale, puisqu'il ne donne pas son nom et peu importe, révèle quand même la présence, comme jamais, d'un auteur vraiment derrière ce livre. Il y a quelqu'un derrière ce livre. Ce Hanuman Emon est quelqu'un, au sens où on dit, ça c'est quelqu'un. Donc on a à la fois un grand auteur, un grand livre. C'est pas tous les jours qu'on peut dire ça à la radio. Voilà.
Alors, ce serait bien qu'on revienne sur cette histoire paradoxale d'un très grand, pour vous suivre, et d'un très gros livre qui, bizarrement, travaille sur la forme courte. Je dirais pour ma part que on a l'impression quand on commence que c'est une suite de formes éclatées, que ce sont des fragments, qu'on est perdu dans des choses très très différentes et très diverses. Et puis au fur et à mesure qu'on avance, on comprend qu'il y a une cohérence, des lignes, des personnages en particulier qui reviennent, des formes qui reviennent, des thèmes, peut-être pas narratifs, en tout cas thématiques qui reviennent. Et que vous avez aussi le projet dans ces 1000 pages de reconstituer quelque chose. C'est pas seulement une suite de fragments et d'écritures. C'est vrai que il y a des récits, il y a des lettres, il y a des dialogues, il y a des pièces de théâtre, il y a des choses très très diverses et pourtant se constitue quelque chose de cohérent.
Oui, si vous voulez, l'idée c'était de disposer, de tenir un peu comme le... J'avais utilisé, je ne sais plus où, cette histoire-là de la ficelle de Gutenberg, c'est-à-dire ce qui fait tenir les pavés de caractères, si vous voulez, même aujourd'hui en typo, pour ceux qui continuent la typo, c'est une sorte de simple ficelle qui tient les caractères ensemble, qui leur donne leur sens, et qui fait que la page est une page, et que si la ficelle se défait, tout tombe en pâte. Donc l'idée, c'était ça, c'est de travailler tout le temps, enfin c'est pas une idée, c'était le travail lui-même, c'est d'être toujours à la limite du chaos, toujours à la limite de la dissolution, mais sans basculer évidemment ni dans la psychose pour l'auteur, ni dans l'écriture insensée ou dans l'écriture libre, ni dans le patchwork pour l'œuvre elle-même, et tenir ça et faire surtout une sorte de grand train de bois flottant. Je pense que c'est une image assez facile à saisir, c'est ces trains de bois flottants qu'on voit au Canada ou ailleurs, si vous voulez, qui permet à partir de fragments et d'inachèvements successifs de créer une grande forme. C'était ça, c'était d'arriver à une grande forme, à partir, grande forme pas dans le sens prétentieux, au niveau de la durée, et à partir de ces fragments successifs, et en changeant de registre. Mais sans évidemment tomber dans le patchwork, ni sans revenir au chaos. Le problème, c'est de tenir cette limite du chaos, si vous voulez, qui est vraiment parce que ça permet une approche de l'inconscient, parce que ça permet des tas de choses, sans choir ni d'un côté ni de l'autre.
Pas non plus dans le récit linéaire.
Absolument pas, si vous voulez. Et puis en même temps, en faisant en sorte de ne pas continuer, c'est-à-dire en faisant en sorte qu'un récit ne procède pas d'un autre, de la même façon que les références aux auteurs, mais peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. C'est pas une référence comme suite d'un auteur, c'est autre chose. C'est un rapport différent, mais en tout cas que ça ne procède jamais, si vous voulez, de ce qui précède, de cette façon, les champs, de la même façon que...
Vous voulez dire que chaque fragment vaut pour lui-même, ce pourquoi vous pouvez les lire, par exemple, sur
votre CD ? Il vaut pour lui-même, mais évidemment, il est placé dans une nappe avec une cohérence de nappe. Il n'y a pas vraiment de personnage, c'est dans la partie... puisqu'il y a eu 3 temps dans la cosmologie, je vais vite, mais j'explique un peu. Donc il y a 19 quartiers, il y a 3 continents, ou 3 façons d'attaquer l'écriture. Il y a le continent qui s'appelait l'Ogre, L-O-G-R-E-S, qui était au pluriel, qui est une sorte de continent d'approche et d'écriture, d'apprentissage de l'écriture, disons. L'ogre, c'est le pays des ogres, c'est le royaume d'Arthur, c'est ce qu'on veut. Ogre, dont un morceau est paru qui est une façon de travailler sur des petits récits et des choses fragmentées, or, qui a été une façon beaucoup plus éclatée, où les sortes de profils constitués, ce n'est pas vraiment des personnages, mais c'est des choses qu'on peut rapprocher éventuellement de personnages, c'est devenu des voix, c'est une partie beaucoup plus éclatée encore. Et O, qui est le troisième temps de cette écriture, qui est le retour à une écriture néante, si je veux dire, une sorte de néantisation de l'écriture au sens rimbaldien, c'est-à-dire une sorte de disparition des procédés. Donc, si vous voulez, il s'est agi dans cet ouvrage-là de réunir à la fois dans un emportement de récit, à la fois de ne pas traverser ces 19 quartiers et en même temps de brasser les trois continents d'écriture. Voilà. Et je disais simplement pour dire que toutes les transformations, comme le surnom est quelque chose de donné, c'est pas quelque chose qui a été choisi comme un pseudonyme, de la même façon...
Donné,
c'est comme Perceval reçoit son nom, ça a été donné, c'est-à-dire c'est apparu de le surnom est apparu de l'écriture elle-même.
Il vous a été donné.
Oui, en quelque sorte, ça ne veut pas dire que j'ai été comme Bernadette de Soubirous, mais ça veut dire simplement que ça a surgi, si vous voulez, d'une nécessité interne à l'écriture, et de la même façon, la constitution des quartiers s'est faite comme ça. C'est-à-dire, c'est pas au moment où j'ai terminé le premier et que le second s'est ébauché, mais ça s'est agrandi latéralement, si vous voulez, et ensuite ça a fini par s'imposer. De la même façon que le surnom a eu plusieurs étapes et l'univers lui-même a eu plusieurs étapes. Il y a eu des cartes, du reste, pour en faire le plan à chaque fois.
Oui, il n'y a pas d'origine au sens de la cosmogonie traditionnelle, mais il y a quand même un début du texte pour le lecteur. Moi, je témoigne d'une expérience de lecture. Et il n'est pas indifférent que le premier mot, le premier titre du premier des 11 chants, ça soit chaos. C'est-à-dire qu'effectivement, ça procède malgré tout d'un chaos et on approche d'une mise en ordre. C'est-à-dire que le lecteur est confronté à une série de blocs narratifs ou poétiques ou de dialogues et une série de petits romans. C'est-à-dire que je me suis dit à un moment qu'un auteur paresseux aurait pu faire à peu près une œuvre complète avec tout ce qu'il y a dedans, avec une dizaine de petits romans de 100 pages qui auraient peut-être pu très très bien marcher. Et là, au contraire, il y a la volonté de confronter ça à cette totalité impossible dont vous parliez, et en même temps d'arriver à faire tenir ensemble. Et c'est ça, je crois, qui est le côté, le pari impossible d'ailleurs, qui est aussi posé au lecteur, hein, qui doit être le vôtre, mais qui est aussi celui du lecteur, d'arriver à continuer à lire, d'arriver à se repérer, et surtout d'arriver, disons, au moins la difficulté d'ailleurs de sortir du monde des quartiers de Hong. Je crois qu'il y a aussi une difficulté, parce qu'on est dans une telle diversité qu'au d'un moment on est complètement accroché par un récit peut-être intime, et puis on va passer à un roman de Robespierre, un roman de l'enfance de Staline, un roman de Christophe Colomb.
Un roman que vous interrompez d'ailleurs, hein. Vous travaillez sur l'interruption aussi.
Oui. Il faut que ça reste dans cet inachèvement, si vous voulez. C'est la différence entre un livre de lecture et un livre d'écriture, je crois. C'est-à-dire il faut se déprendre à chaque fois, excusez-moi, il faut se déprendre à chaque fois de la tentation d'écrire le livre qu'on lirait.
Ouais. Vous appelez ça une collection d'extases et d'énigmes, et c'est vraiment cette invitation qui est faite au lecteur, c'est-à-dire qu'il y a des moments qui sont des moments de pur bonheur de lecture, des moments où on est dans le noir total, on ne sait plus où on est, et puis cette technique d'agrégation dont vous parlez dans le texte que vous avez donné à la main de singe, permet de comprendre, pas forcément de se repérer de façon très claire, mais d'avoir, disons, suffisamment pour le lecteur de possibilités de projection et d'investissement pour continuer et pour continuer à aimer aussi ce livre et ses personnages.
Oui. Claude Ril.
J'entends bien tout cela. Quand Anouman Emon nous dit que ce n'est pas un roman généalogique, il y a quand même deux longs livres qui s'appellent Les Grands Ancêtres et Olim. Moi, il faut dire une chose. Moi, ma relation avec la prose de Anouman Emon, que je connais maintenant depuis pas mal de temps, a toujours été assez violente. C'est-à-dire que, à l'époque où il distribuait ses textes à ceux qui voulaient les avoir, par le biais des éditions Tristram, Ces textes, plus ou moins longs, étaient dans des chemises, belles chemises blanches, au bord très tranchant. Et la première fois que j'ai ouvert une de ces chemises, je me suis vraiment profondément blessé au pouce. Et donc le tout était aspergé de sang. Alors je me suis dit, bon, je pensais à des vieilles histoires, à la frère de sang, mais bon, je n'ai jamais lâché la prose de ma dévote depuis. Et puis maintenant, avec ce bouquin qui nous arrive là, c'est très violent aussi, parce que c'est vraiment, moi je suis ébloui. Ébloui, c'est-à-dire à tous les sens du terme. Hein. C'est-à-dire, je n'y vois plus rien. Je suis rentré là-dedans, j'avais l'impression d'être aveugle, de n'avoir jamais lu un livre, et qu'il fallait que je réapprenne à lire. Et en même temps, j'étais vraiment confit d'admiration par ces images, ces métaphores, ces choses magnifiques qu'on trouve à chaque détour de la phrase, les inventions verbales, la beauté des paysages, sa description de la pluie, par exemple, qui est formidable, qui est prodigieuse. Bon, voilà. Mais, si vous voulez, c'était très violent aussi. Et j'ai plutôt, lorsque...
Qu'est-ce que ça veut dire, c'était très violent ? Vous aviez aussi un sentiment de rejet ?
C'est-à-dire que j'avais l'impression de ne plus savoir où aller. J'étais ébloui, vraiment, littéralement ébloui. C'est-à-dire que je tâtonnais. Bon, ça n'est pas désagréable de se perdre dans une ville ou dans une campagne, mais il faut l'assurer, quoi. Hein. Et ça peut faire mal à certains endroits. Et plutôt qu'un continent, moi je dirais que ce livre est un archipel, mais oui, Hahnemann Evans ne sera peut-être pas d'accord avec moi. Hein. Mais bon, il y a cet aspect, bon, quand même, encore une fois, de une violence certaine, qui est cette... à un moment, il parle d'un paysage qui prépare sa crise épileptique. C'est une image formidable. Ça continue. Sa crise épileptique enveloppe le cosmos. Oui, là, on peut vraiment, par moment, parler de prose épileptique. C'est-à-dire, lorsqu'on est en face d'un épileptique, on est complètement désemparé, hein, lorsqu'il a sa crise. Hein. On peut à peine le toucher, parce que lorsqu'on le touche, c'est comme si on touchait un poisson aux torpilles. Hein. C'est de l'électrocution. Et tout ce qu'on peut faire, c'est de l'empêcher, de vouloir l'empêcher de tomber. Mais si on veut le prendre, il a une force terrible qui nous casse la figure, quoi. Et cette prose-là, relève de ce genre de choses.
Oui, sans doute, l'épithète épileptique a déjà été utilisée. Si vous voulez, je pense que ça se situe souvent, effectivement, entre l'éblouissant et le pénible. Il y a aussi, si vous voulez, là-dedans, le pénible au sens de la lenteur aussi à faire les choses. Par exemple, avec une idée un peu utopique, parce qu'il y a aussi, suivant les endroits, si vous voulez, des théories locales. C'est-à-dire, il n'y a pas de théorie générale du texte. J'essaie de l'intégrer dans le texte. Et à certains moments, par exemple, sur Gilles d'Arles, là, ce texte qui est un peu violent. Je ne sais pas si on a eu. S'il fallait commencer par là, dans La Main de Singe, parce que je sais que ça a pu heurter
donc
des personnes.
C'est pour expliquer. Donc, des textes de vous inédits dans ce livre ont été publiés
dans La Main de Singe. Mais c'est pour parler de la pornographie, par exemple, du rapport à la pornographie, au serial killer, à tout cet aspect-là.
C'était des textes extrêmement violents. Hein,
oui, certains, oui, certains. Donc, Gilles d'Arles, si vous voulez, j'ai jeté un petit peu les termes, enfin le côté des archaïsmes où j'ai utilisé véritablement les termes du Moyen-Âge, un peu comme dans la Bible, si vous voulez, c'était dans le livre de Samuel, je crois, à un moment donné, Dieu jette des émeraudes dans le corps des Philistins, ça crée des infections, des choses comme ça, et c'était comme une sorte d'empêchement, un petit peu pour expliquer que dans le fond, le diable est laborieux, si vous voulez, c'est-à-dire il construit des machines, un peu comme Casanova construit aussi des machines amoureuses et des choses de cet ordre-là, et c'est-à-dire l'idée, mais c'est sans doute une idée rousseauiste, c'est-à-dire effectivement, malheureusement, ce qu'il y a de plus facile la plupart du temps, c'est le mal. Mais en tout cas, là, c'était une sorte d'empêchement à la lisibilité immédiate et effectivement, un petit peu à l'inverse de ce qui se faisait à l'époque de Charles Quint, parce que je crois que chez Charles Quint, c'était l'inverse. On appliquait des pierres sur son corps pour traiter des problèmes des mots et des articulations. Là, c'était pour empêcher les articulations, en quelque sorte, du texte et pour empêcher cette lisibilité. Et il reste quand même des questions de cet ordre-là par rapport à la violence ou par rapport à la pornographie. C'est-à-dire que là-dedans, par exemple, j'ai mis très peu de choses de cet ordre-là.
Dans le livre.
Dans le livre, oui. Parce que si vous voulez, même si ça occupe toute une partie de la...
Il y a des meurtres au début, quand même.
Oui, de la cosmologie. C'est aussi le danger de la facilité aujourd'hui. La pornographie, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de tout à fait commun.
Je ne parlais pas tant de la violence pornographique ou de la violence pure. Je parlais de la violence dans votre forme.
Oui.
Vous voyez, hein. Il ne s'agit pas des descriptions pornographiques ou violentes. Non, au contraire. Elles sont formidables parce que votre texte dans La Main de Singe, par exemple, Dame le Pion à tous les turiféraires de bataille, enfin, bon, ça n'a rien à voir avec ça et ça montre vraiment une violence pure et non, si vous voulez, transcendée, quoi.
Oui. Alors.
Donc, non, c'est au niveau formel que je parlais de cette violence au niveau formel, lorsque le lecteur rentre dans votre livre et essaie d'y progresser, quoi. Et là, effectivement, on s'en prend plein les gencives. Hein.
Je voulais dire que pour régler ce problème, effectivement, parce qu'on est devant un bloc d'énigmes chu ici-bas, une sorte de météore, et... Et j'avoue qu'effectivement, devant cette masse, il faut quand même arriver à l'attaquer. Et de tout le côté, c'est une espèce de face nord. Hein. J'avoue que...
Pas partout. Quelquefois, on entre très facilement. Il y a des parties qui sont très différentes.
Moi, je dirais même...
J'ai essayé de le lire de manière chronologique. Mais j'ai trouvé un moyen, tout simplement, c'est de le lire à voix haute. Hein. Donc j'ai lu tout ce livre à voix haute, à mi-voix, j'ai pas emmerdé les voisins non plus, mais d'autant qu'il fallait les propos que je tenais étaient auraient pu faire appeler le commissariat local. Mais donc je l'ai lu à voix haute parce que d'une certaine manière ce livre je l'entends et je l'ai lu la nuit et j'y revenais comme une espèce de poste de radio clandestin qu'on écoute pendant les, comme dit l'autre, dans le bunker de la dernière rafale. Et d'ailleurs, ce qui est très étonnant, et alors là, il faut saluer l'objet, le livre, ça, juste une petite parenthèse pour dire quand même que c'est un des plus beaux livres de ma bibliothèque. Je trouve ce livre sublime, enfin, au niveau de sa conception.
Ce sont vos dessins,
l'auteur y a participé. Et moi, ce livre évoque, enfin, pour moi, c'est une radio, quoi. C'est-à-dire, il en a la forme, il y a le gros bouton, enfin, au niveau de la maquette de la couverture, c'est un transistor clandestin bricolé dans une cave, et donc j'ai écouté ce livre, je l'entends, j'ai été la voix de ce livre, ça a conjuré cette violence qui, si je lisais d'une manière uniquement muette et visuelle, aurait été parfois trop grande, parce qu'effectivement il faut arriver à conjurer la violence et la stupéfaction des images qui naissent, puisque c'est un principe de surprise permanent, puisqu'il y a une disruption permanente des récits et nous arrive dans les oreilles et dans la gueule des choses qu'on n'attend pas, des choses sublimes, des choses violentes, des choses insoutenables. Moi, je suis très sensible aux descriptions anatomiques, aux choses comme ça. Et bon, c'est vrai que Détective, à côté, c'est quand même une revue scout dans certains passages. Donc, une radio... Hein, et le livre en a la forme. D'ailleurs, il reproduit sur la couverture une carte de l'Amérique du Sud et plus précisément de la région du Rio de la Plata avec Buenos Aires en face de Montevideo. Alors évidemment, on y verra peut-être une allusion à Isidore Ducasse. Moi, je ne crois pas vraiment, mais tout simplement parce qu'il y a aussi un rapport biographique de l'auteur à cette région-là. Et donc, toute cette carte avec ce foisonnement de noms autour du Rio de la Plata, on dirait tout à fait ces grilles sur les vieilles radios où il y avait toutes les stations. Hein, il y avait Luxembourg, Oslo. Je pense que j'ai lu ce livre comme si chacun de ces 19 quartiers émettait des émissions, émettait des signes. Et chaque personnage, effectivement, si on l'entend comme une... par le biais de la voix, ça conjure un peu cette violence dont parlait Claude Ril. Et je crois que l'auteur qui a été tenté aussi, dans d'autres parties non publiées, de travailler sur la typographie avec des colonnes ou des choses comme ça, a peut-être bien fait de ne pas les intégrer dans ce volume-là. Ça aurait peut-être entraîné une certaine ambiguïté, parce que c'est un livre à entendre. Voilà, c'est un livre qu'on entend. Voilà.
Alors oui, ça me touche beaucoup, si vous voulez, parce qu'il y avait même au moment de la parution, de la même façon qu'il y a un DVD qu'on a réalisé avec Didier Morin, qui est pour des lectures comme ça sans auteur, qui sont à partir de certaines images, d'un choix du CD, si vous voulez, qui accompagne le livre et sur lequel il y a des images comme ça, comme des flashs qui arrivent dans la nuit, qui sont des photos de sacs de frappe, de karaté, de paysages, de choses comme ça, qui ont été faites en partie par moi et surtout par Didier Morin. De la même façon, il y avait quelque chose qui est transversal à tout le travail de la cosmologie et qui est la radio, qui est très très importante. Le travail d'abord la radio du Pays des Morts comme chez Cocteau, hein, qui a été repris un peu de cette façon-là. À un moment donné, j'avais même pensé éditer ça sous forme de CD qu'on aurait écouté justement avec en même temps que le déroulement du paysage ou des choses de cet ordre-là. La radio intervient comme radio de nuit, liée à l'endormissement, liée au travail du rêve. Et il y avait même un projet radiophonique qui malheureusement n'a pas pu se faire, mais qui était prévu et qui devait se réaliser en même temps que la parution de l'ouvrage. Donc la radiophonie est très importante. Et
je vous interromps parce qu'on va entendre un extrait de votre CD où vous évoquez justement la radio.
Les géobiologues. Cet engourdissement curieux de la tête, bruineux de l'estime. Lorsque trop tôt promus sont les coucous, trop de beurre à la fois dans le blanc des yeux. L'arrivage, mais où se situe le foie de la terre? Son eczéma, l'Arménie. Je dormais sur Madame Hartmann et je ne m'en étais pas rendu compte. Croisement du yin, j'étais pris dans son filet. En tant que 1m78, le vieux con de 7. Alors, mon oncle plantait la tente, je reçois France Musique au niveau du troisième œil, France Culture au niveau du plexus et France Inter dans l'oignon. La nuit, les satellites me bombardent à travers les solénoïdes, radars des spires de cuivre du matelas. Cette nuit, mauvaise pollution nocturne de TDF. Le message secret de la NASA est lentement décrypté par toutes les cellules de mon corps, mais je n'en sais rien. Plutôt la jouissance des mimosas, soudaine rafale à la figure. La nuit suivante, émission extraordinaire, un conte gravé. Certes, il est beau, votre menhir, mon ami. Où se trouve donc votre ciel antérieur? L'ours frotte sa colonne contre le menhir et claque. Toutes les vertèbres se redressent. Savez-vous que la souris africaine n'a pas de cancer du sein parce qu'elle ne porte pas de soutien-gorge, parce qu'elle ne porte pas d'armature et donc pas d'antenne, parce que ce nylon n'a pas de couleur? J'ai vu des couples se séparer pour des problèmes de pollution. Un hémisexuel créé par l'électricité statique du vieux frigo débranché. L'homme et la femme n'étant plus polarisés correctement, obligés de s'enfermer chacun de leur côté dans un sac poubelle. Je sors tous les matins pieds nus dans le jardin de la littérature. Cela a toujours été mon but, sortir depuis la littérature dans le jardin, depuis Inda et Pingala.
Voilà, c'était donc un extrait que j'avais choisi parce que justement la radio est si importante dans votre livre, les voix, etc.
Oui.
C'était aussi pour tempérer ce que disait Dominique Poncet sur la violence. Il y a des tas de passages drôles, oui. Vous faites des descriptions, je ne sais pas, je me souviens d'avoir lu la description du premier baiser, par exemple, qui n'a rien de violent. Ce n'est pas un texte exclusivement violent, qui travaille exclusivement sur la violence et sur l'insoutenable.
Non, pas du tout. Il y a une limite de l'horreur qui est comme la beauté, comme limite de l'horreur permise aussi parfois. Et puis il y a des choses énigmatiques, même sur lesquelles c'est un travail de connaissance, quoi. C'est l'idée d'un travail de recherche. Hein. L'idée même à partir de ça, c'était de créer une sorte de centre de recherche ou je ne sais quoi, hein, où on aurait pu travailler à plusieurs. Mais bon, c'est autre chose. Mais toujours est-il que, si vous voulez, par exemple, par rapport au paysage dont parlait tout à l'heure Claude Ril, il y a effectivement tout un intérêt pour le paysage, l'ombre des paysages dans les peintures, par exemple. Je me suis attardé dans le musée, notamment le musée qui était l'ancien musée Guimet, je ne sais plus comment il s'appelle maintenant, où il y a notamment des paysages de Paris assez étonnants. Il y a des références à ce type de paysage et d'ombre du paysage. Comment l'ombre, ce que l'ombre déclenche, quel est le travail de l'ombre qui est quelque chose de vraiment de très très particulier. Paysage comme entrée parfois au pays des morts, comme le rebord du monde. Il y a quelque chose du travail de la méditation ou de la contemplation par rapport au paysage. C'est des questions qui restent ouvertes. Il y a des choses même qui sont pas sur lesquelles j'ai pas de réponse précise ni de motif de recherche précis, si vous voulez. Donc tout ça reste quand même extrêmement ouvert par certains côtés.
Et Dominique Poncet évoquait le caractère mouvant de la géographie, faudrait dire le caractère mouvant de la géographie de ce livre. C'est aussi souvent écrit à la première personne. Cette première personne est elle aussi extrêmement mouvante.
Elle est mouvante, hein, oui, sans arrêt.
Il y a un chien qui dit jeu, le journal d'une adolescente, il y a beaucoup de jeux.
Oui, il y a beaucoup de jeux, c'est des voix qui se constituent à chaque fois, comme des sortes effectivement d'agrégats climatiques ou autres, des états du monde à un moment donné. qui ont, je vous dis, presque un profil, mais qui ne deviennent pas des personnages constitués, en tout cas, et pas de, dans un travail de psychologie, en tout cas.
Il y a
cas.
Des jeux et puis il y a des bandes. Hein. On va revenir à ça. Vous décrivez des bandes, des tribus de
oui,
gens, et
sûr.
Donc des sortes d'énumérations de personnages avec des surnoms. Une grande partie de ce livre consiste dans la description de vos bandes.
Oui. Oui, si vous voulez, le jeu...
La bande à Pipo, la bande à Jésus, la bande du Styx.
Oui, oui, oui. Donc, si vous voulez, ces bandes-là font référence souvent à des moments, des mouvements qui ont existé plus ou moins, ou d'autres qui n'ont pas été là. Mais il y a des références assez importantes. Par exemple, si vous voulez, la bande de la Folie Méricourt, par exemple, qui est un groupe de femmes qui a existé et qui était... dans un travail, c'était vraiment un groupe schizophrène, on peut le dire, et qui travaillait aussi sur la voyance. Ce qui a nourri aussi par moment le texte, ça peut être aussi bien comme auteur et comme tentative, le Montfaucon, Reserve Chanter ou Sophie Podolsky. Il y a des choses très très différentes. Par exemple, il y a un groupe qui a repris le nom des Alumbrados, qui était... Les enluminés, c'est le cas de le dire, du côté de Sainte-Thérèse d'Avila, mais il y a un groupe que connaît Afesbéro, du reste, qui existe encore de poètes, dont Régis Nivelle fait partie, qui sont des poètes assez baroques. Donc il y a des références, des références comme ça, des mouvements et des déplacements qui ont existé. Et effectivement, il y a toute cette collectivité du « on » aussi. Hein. Et puis le jeu, effectivement, s'il y a un jeu, le jeu est un genou, on pourrait dire. C'est-à-dire, c'est entre le jeu et le nous que ça se passe. C'est la coupure du cuisinier chinois dont le couteau passe entre les articulations, ou du calligraphe dont le pinceau passe effectivement dans le vide médian. Et ça, il y a d'autres gens comme, je ne sais pas, Eric Arlix qui travaille là-dessus, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Joue », qui est entre le jeu et le nous. Si vous voulez. Donc cette articulation, cette multiplicité, effectivement, elle est là toujours à l'œuvre dans les bandes dont vous parlez.
Oui, je voulais revenir sur les enluminures, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les allusions historiques et littéraires que comporte le terme, y compris l'allusion à Rimbaud, mais c'est aussi ce que le livre représente en tant qu'objet. Objet graphique. Alors, bon, d'une part, toute une série de dessins, de calligraphies qui sont présentes, de photos qui sont présentes à la fois à titre de vignettes dans les marges du livre. C'est-à-dire que le livre fonctionne non pas seulement comme texte, mais aussi comme objet graphique et pictural, d'une certaine façon. Et ce qui est assez étonnant et d'une certaine façon rétablit parfois certaines continuités, ce sont ces photos qui sont découpées, dont on trouve une moitié entre deux pages. C'est-à-dire que c'est une page qui est deux fois plus petite que les autres, et plus étroite que les autres. Et puis on peut s'amuser à retrouver l'autre moitié une trentaine de pages plus loin. On peut même s'amuser à regarder en pinçant les pages si c'est bien la photo qu'on avait vue. Et donc c'est une façon aussi de naviguer dans le texte, d'une certaine façon, de se repérer, parfois de se perdre un peu, parce que ça ne correspond pas forcément au même, à des moments vraiment homogènes hein, de la structure du livre. Mais c'est aussi une façon d'ouvrir vers cette totalité dont vous parliez et de rendre compte de cette cohérence qui est toujours prête à sombrer.
Et on pourrait ajouter que la photo est elle-même... il est beaucoup question de photos.
Oui.
Non seulement il y a des photos, mais vous parlez beaucoup.
Il y a une séance de pause.
Voilà.
Oui. Oui,
un personnage qui s'appelle Nicéphore, etc.
Oui, bien sûr. Ouais. Et si vous voulez, les dessins, les photographies qui interviennent dans le livre, on a volontairement, avec Afesbéro, on les a collés vraiment au texte volontairement, comme des ascenseurs. Bon, à cause des problèmes aujourd'hui qui sont des problèmes de papier, mais qui sont plutôt liés à la martinière qu'à autre chose, si vous voulez. On n'a pas eu les marges aussi larges que possible, mais en tout cas, on a eu la chance, grâce à Vertical, si vous voulez, de faire une maquette assez difficile, parce qu'il y avait à la fois les photos comme ascenseur, les photos et les dessins comme ascenseurs, volontairement, latéraux, quoi. Enfin, j'utilise cette image.
Les ascenseurs, et puis, je ne vois pas bien, moi.
Enfin, les colonnes latérales, si
D'accord.
vous préférez. Et donc, il y avait aussi les inserts. Et les inserts, il a fallu les insérer, c'est le cas de le dire, dans le livre à la main. Donc, c'était quand même une réalisation qui était assez difficile. Les inserts jouent effectivement avec le texte. Donc, ça aurait pu être beaucoup plus élaboré encore dans le rapport entre les inserts et le texte. Mais en tout cas, ça n'a jamais un rapport d'illustration. Et c'est volontairement aussi que nous les avons laissés comme ça, dans cette petite échelle, parce que s'il y a un modèle, mais un modèle lointain et sans aucune prétention, si vous voulez, c'est le modèle pandien. C'est-à-dire qu'au-delà du dispositif idéogrammatique d'Ezra Pound, j'ajoutais simplement les dessins ou les gravures ou les photographies, un petit peu comme Ezra Pound.
Je pensais à Michaud, parce que vous travaillez aussi à l'encre.
Oui, hein, bien sûr. Mais en tout cas, la référence au niveau du chant lui-même, de l'écriture, de la scansion poétique de l'ensemble de l'ouvrage et du rapport comme des typogrammes, quoi, vous voyez, les dessins. Donc on les reconnaît à peine, ça intervient comme tache de couleur. Le but, c'était pas non plus de faire un catalogue d'art, c'est autre chose. Et puis les dessins, on peut éventuellement les voir ailleurs. Mais c'était vraiment que ça fonctionne comme étoilement du texte, pour répondre à votre question tout à l'heure. Non pas illustration, mais étoilement. Ça permet de partir sur une autre piste.
Claude Ril ?
Oui, autre chose sur justement la structure de la page et de la pagination en général. Votre enregistrement sur CD donne à entendre parfois de 2 à 3 voix simultanément.
Oui.
En jouant avec les haut-parleurs. C'est d'ailleurs assez prodigieux. Cela pourrait être transcrit par des colonnes sur la page. Pourquoi n'avez-vous pas utilisé ce procédé pour la simultanéité?
Alors, si vous voulez...
Suivant une idée que vous connaissez bien.
Oui. Si vous voulez, par rapport aux références, on peut en parler, et notamment celle par rapport à Arnaud Otto-Schmidt, si vous voulez, au moment où les parties... Il y a une partie, ce que je disais tout à l'heure, qui s'appelle Or, et qui a été composée en gros entre 84 et 91, et qui pourrait faire penser, parce que c'était une mise en page, c'est les feuilletons notamment distribués par Tristram, c'était très éclaté typographiquement, et très sincèrement, à ce moment-là, je ne connaissais absolument rien de Schmitt.
J'avais une très belle page comme ça, avec des haut-parleurs dans les 4 coins de la page.
Voilà, alors justement, j'utilisais le terme de timbre, j'utilisais les termes de haut-parleurs, et j'ai découvert, je vous avouerai, moi, vraiment Schmitt par rapport à... de votre texte qui est paru dans la Nouvelle Revue de Littérature Générale. Ensuite, j'ai lu ce qui était paru auparavant dans La Main de Singe. Et ensuite, j'ai lu des ouvrages qui étaient parus notamment chez Bourgois. Mais alors, très sincèrement, ça reposait sur une ignorance complète. Alors maintenant, par contre, ça pose la question. D'une part, dans le livre, on les a pas reproduits, parce que si vous voulez, on a pensé avec F.S. Béraud que sur une somme comme ça de 150 pages, déjà, il y avait une grande hétérogénéité du texte et ça aurait été vraiment difficile pour le lecteur. Cette partie-là ne représente tout au plus que 200-250 pages. Et on s'était dit avec F.S. Béraud que ça conviendrait, comme c'est une partie chinoise, que ça conviendrait, par exemple, dans dans un journal comme La Main de Singe, justement sous forme d'un journal, par exemple, le journal des États ou des saisons d'or. Et F.S. Béraud me faisait remarquer que la disposition typographique, justement, était peut-être une métaphore plutôt... De l'utilisation sonore. Donc j'ai préféré travailler sur ces voix simultanées qu'on peut suivre, et si on peut suivre l'une ou suivre l'autre, ça c'est le grand travail de Philippe Prévost, et là-dessus je trouve qu'il a fait un travail remarquable. Et donc, si vous voulez, j'ai préféré le faire de cette façon. Et puis en plus, comme vous disiez très bien dans la fin de votre texte sur Schmitt, il se pose aussi la question, maintenant que je le sais, est-ce que c'est aussi pertinent, précisément, de le faire, quoi. Par contre, il y a des coïncidences qui m'ont étonné, c'est que vous parliez dans votre texte de haut-parleur, et moi j'en parlais dans un premier texte de 90 sans rien connaître, et je parlais aussi de l'utilisation de timbres, et il se trouve que Schmitt effectivement a utilisé entre autres des timbres.
Oui, bien sûr.
Dominique Poncet.
On entend en écoutant Onoum Anémone qu'il a quand même un goût féroce de la précision. Son livre est extrêmement précis. Ces images dont on dit qu'elles sont violentes ou sublimes, elles le sont parce qu'elles sont extrêmement précises. Ce livre a un objet, chaque mot a un objet, chaque virgule, chaque mot du texte renvoie et tient compte de cette espèce d'opéra fabuleux, de scène où se joue vraiment 50 ans de vie, de lecture, de travail de l'histoire. Et donc,
50,
et oui, parce que les premiers
40,
je suis très très vieux.
Oui, 40, disons, mais enfin, bon, pour que les premiers textes apparemment sont parus dans, en milieu des années 60, 64, 65, ça fait 40 ans, donc je suppose que c'était enclenché un petit peu avant, mais enfin, il n'a pas 100 ans, Malémon non plus. Donc, je voulais dire ce goût féroce de la précision. Effectivement, voilà la singularité d'un auteur qui, à une époque où faire de la littérature, ça semblerait être, par exemple, de déverser avait sur la page une espèce de... C'est la littérature trip et boyau, la littérature menée par les glandes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus effectivement d'auteur. Il y a une espèce d'éviscération publique. Lui, il oppose la précision, le calme du karatéka, du ceinture noire d'art martial. Et c'est-à-dire que les coups sont mortels, mais ils ne les portent pas. Ils s'arrêtent à 1 mm de la carotide. Ils ne tuent pas le lecteur. Donc, ce goût de la précision aussi, c'est-à-dire que tout est calculé, tout est travaillé, tout est maîtrisé. Qui dit précision dit maîtrise. Bouvard et Pécuchet, dit Flaubert, ils essayèrent de devenir ambidextre. Mais Onumanémone, il est pire qu'ambidextre. C'est-à-dire que son petit doigt, à mon avis, de la main gauche ou son orteil, est aussi agile que l'index de sa main droite. Voilà. Et donc, voilà quelqu'un qui travaille tout ça. Et je lui ai posé une question l'autre jour. Je lui dis, moi j'étais très impressionné par les, je le redis encore, c'est une de mes obsessions, par les descriptions anatomiques ou de décomposition, d'organes, tout ça. Enfin, c'est quelque chose qui m'a beaucoup bouleversé. Et je lui dis, mais enfin, comment est-ce qu'il est possible que ça soit si précis? Ben, effectivement, il a des connaissances extrêmement précises en biologie. Je ne m'étonnerais pas qu'il ait manié le scalpel. Donc voilà, donc il cultive comme un musicien ou comme un karatéka l'indépendance des membres, l'indépendance des organes, comme un pianiste va faire travailler ses petits doigts exactement comme son index. Et il arrive à jouer sur plusieurs registres, et son livre est comme ça. Il est d'une précision absolue, d'une maîtrise absolue, et c'est quand même suffisamment rare pour qu'on le quand je dis il y a quelqu'un derrière ce livre, effectivement, ça n'est pas des tripes et des boyaux, c'est quelqu'un d'extrêmement maîtrisé, c'est un gentleman aussi de la littérature, voilà, quelqu'un qui ne cherche pas à montrer sa figure, mais à être dans une espèce de physiologie contrôlée de la littérature. Alors ça c'est tellement rare qu'il faut le dire, quoi. Voilà.
Je ne sais pas ce que vous pourriez ajouter là, Onumanémone.
Si, justement, à propos de Arno Schmidt, je trouvais quelque chose qui était assez intéressant. C'est un écrivain se dissout lentement dans ses œuvres. Quant aux pauvres résidus qui restent, il vaut mieux ne pas le regarder. Donc vous voyez que, comme vous voyez aujourd'hui, que j'ai un physique de radio, donc ça convient tout à fait.
Chapeau.
À propos du CD, vous dites, ou c'est peut-être votre éditeur qui dit que c'est une méthode de lecture, ce qui pourrait être intéressant, parce que justement on se posait la question de savoir comment entrer là-dedans. Peut-être le CD, vous dites, ça serait bien que vous expliquiez.
Oui, du côté de l'écoute optique, alors ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Stéphanie, je crois, qui parlait de ça à propos de Joyce, cette histoire d'écoute optique. C'est-à-dire qu'il y a des textes qui travaillent effectivement entre l'œil et l'oreille, que c'est toujours un peu réducteur de passer soit d'un côté, soit de l'autre, et que ça donne une porte d'entrée parce que le texte est toujours travaillé, aussi oralisé d'une certaine façon.
Et donc, vous donnez raison à Dominique Poncet qui dit qu'il le lit à voix haute.
Oui, je pense que c'est important. Ça arrive aussi. Ça m'arrive aussi comme ça dans l'espace de comme ça, mais pas au sens du Gauloir de Flaubert, pas du tout ça, quoi, dans un grand espace, parce que justement les phrases sont très vite ridiculisées, quoi, dans l'espace du paysage.
Donc ça veut dire quoi, plutôt le marmonner?
Oui, le marmonner, puis sans arrêt passer de l'un à l'autre, quoi. Je pense que c'est ça qui est important et qui permet de, voilà, parce qu'il y a aussi dans l'oralisation excessive, je veux dire, il y a un danger, quoi, hein, c'est-à-dire que ça peut aussi se refermer aussi bien, quoi. C'est le passage de l'un à l'autre qui me semble important. Et je pense que le CD permet peut-être ça, d'approcher un petit peu, d'entendre les voix précisément. C'est des voix, ouais. La radio convient très bien, et donc le CD me semble assez...
Alain Nicolas.
Oui, je voulais insister sur deux choses, parce qu'il me semble que, d'une part, l'un des tons communs, si on peut dire, c'est le côté picaresque, le roman de la tribu, le roman de la famille, et puis, plus que sur l'aspect violent, moi, c'est le côté... Il y a un de vos titres qui est dénommé visionnaire, voyant, voyeur, oui. Voyou. Je crois qu'il y a tout là-dedans, d'une oui. certaine façon. Ça peut résumer peut-être le type d'être qui hante ces pages.
Oui. Oui, si vous voulez...
On termine,
Oui, très vite. Donc, si vous voulez, par rapport à l'ombre aussi, je voulais dire cette histoire, l'ombre est aussi du côté de la fatigue. Et donc, effectivement, un peu l'ombre, et alors un même rapport avec l'image, si vous voulez, que l'inscription par rapport à l'imaginaire. Donc on est dans des ombres, on est dans des groupes d'ombres, et les groupes de voyants dont il est question, dont je parlais tout à l'heure, c'était les gens comme le groupe de la folie méridienne. Héricourt, c'est des gens qui travaillaient sur des travaux de table tournante, c'est des gens qui souvent ont basculé, même ils ont lâché tout, c'est-à-dire ils ont basculé dans le suicide. C'était le cas de Sophie Podolsky, ça a été le cas de plusieurs personnes de ces gens de la Folie Méricourt, qui habitaient entre la Folie Méricourt et proprement parler Sainte-Anne. Et donc, si vous voulez, effectivement, tout ça est un petit peu dans cet ordre-là, dans cette lancée-là, je crois.
Voilà, pour terminer, on va entendre la plage 18 de votre disque qui s'appelle « Un groupe ensuite de Strabik ».
Un groupe ensuite de Strabik traverse la neige. Assemblée des ombrages sous les sapins, rien que l'ayant, bon, voit les pieds, le texte muté. Potence SR Royal, roue libre, Everest à Lucie, chaîne, c'est disport, calopier, Christophe à Lucel, Galéguen à Lure, rouge,
j'enlève natation et je garde natalité. Je sélectionne féminin, masculin,
avec des roues légères, deux jantes argent pour quille. L'autre groupe, 28 rayons,
farceur,
36 arrière,
puis j'appuie sur la touche jeune, vieux,
sueur, épée, mayonnaise, occidentale. Tous les raccords, toutes les pièces reprises à la lune,
Razak.
En fraisage, au perçage.
Oh, chaque entrée, c'est plein de racines,
toute
c'est
la visserie en alu, sauf la vis de blocage du tube de sel et de la potence, qui sont en acier.
Les deux gros rats rentrent par la fenêtre, et l'aîné, Shetland, casquette, que Ourlet dit à l'autre. Explique-lui, Albert. Oui, bon, je vais vous expliquer. Écoute, approche. Est-ce que vous ne connaissez pas un panard de coin?
On a parlé aujourd'hui du livre de Onuman Emon, Quartier de Hon, qui est publié aux éditions Vertical. Voilà, ces mardis ont été réalisés par Daniel Finot. À la prise de son, on ne dit pas qu'il y avait, à la documentation Marie Gobin et à la coordination Geneviève Méry.